Grand Angle.
Grand Angle sur Radio-Orient, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est un texte vieux de plusieurs siècles, mais qui revient aujourd'hui au cœur du débat public. Le Code Noir. À la veille des 25 ans de la loi Taubira, les députés ont engagé son abrogation symbolique, un texte qui organisait juridiquement l'esclavage dans les colonies françaises et qui, malgré les abolitions successives, n'avait jamais été formellement abrogé. Au-delà du symbole, cette décision rouvre plusieurs questions, celles de la mémoire, de la transmission, mais aussi du débat autour des réparations. On en parle avec l'historien Pascal Blanchard. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour à vous.
Avant de parler de son abrogation, j'aimerais revenir au point de départ. Qu'était exactement le Code Noir ?
Alors, le Code Noir, c'est un texte, mais il y en a eu plusieurs, en fait. Donc, c'est ça qui peut être un peu compliqué, mais c'est celui dont on parle, c'est celui de 1685 qui régissait tous les rapports politiques, sociaux, de répression, de justice, de peine, de condamnation entre les maîtres et les esclaves sur les terres, comme on disait à l'époque, à sucre, ou les terres d'esclaves. C'est-à-dire que d'une certaine manière, dans ce code, vous retrouvez l'ensemble des éléments qui s'imposaient à l'esclave, dans certains cas au maître, sur notamment et principalement les sanctions. On a codifié, mis dans la loi, cette relation qui existait alors de domination des maîtres sur les esclaves.
Alors ce qui interpelle aujourd'hui Pascal Blanchard, c'est que ce texte avait disparu des faits, mais pas totalement du droit. Comment expliquer qu'un texte devenu inapplicable depuis longtemps n'ait jamais été formellement abrogé ?
Pour deux raisons. La première, c'est qu'au moment de la seconde abolition, en 1848, la plupart des observateurs ont pensé que parce que l'esclavage n'était plus, que l'esclavage était hors la loi, que le statut d'esclave était impossible. Parce que cette abrogation rentrait, par définition, dans la loi, de facto, l'ensemble des textes liés à la situation de l'esclave ou à l'esclavage étaient de facto abrogés. Et bien, ce n'est pas le cas. Techniquement, il faut abroger un texte pour qu'il n'existe plus dans le droit français. Et donc, il y a cette démarche à faire, pro-réactive, de faire disparaître, d'abroger ce texte du Code Noir. Mais je peux vous le dire, ce n'est pas le seul texte issu de la période esclavagiste ou de la période coloniale qui demeure et qui perdure dans le droit français entre 1685 et 1946, qui va notamment abolir le travail forcé. Il y a d'autres textes, et des dizaines de textes, sur lesquels on pourrait se pencher et se poser la question de, comme disent certains, de nettoyer définitivement le droit français de tous ces textes issus du passé.
Alors, derrière ce vote, il y a aussi la question du symbole. Les députés parlent d'un geste symbolique et politique puissant. En matière de mémoire, est-ce qu'un symbole peut réellement produire des effets ?
Bien sûr. Bien sûr qu'un symbole produit des effets puisqu'il envoie un signe, il fait message, il montre qu'on est soucieux de comprendre que la douleur des uns peut continuer à perdurer quand il y a de tels symboles. Il dit que l'on est dans l'intention d'écouter ce qui peuvent être des mémoires en douleur. Imaginez qu'il reste, par exemple, des textes antisémites dans le droit français. Bah, on comprendrait très très bien que pour des Français de confession juive, la suppression de ces textes fait sens, notamment par rapport à ce qu'ont pu subir leurs parents ou leurs grands-parents, sous Vichy, par exemple. On comprend parfaitement que ceux qui ont eu à subir, ou leurs parents ou leurs aînés, des moments de textes de loi d'une violence extrême sur les corps des femmes, par exemple, que ces textes aient disparu. On peut donc comprendre, même si c'est symbolique, et parce que c'est symbolique, que le fait volontairement de supprimer aujourd'hui ces textes, même s'ils ne sont plus en pratique, cela fait sens pour les mémoires. Ça apaise des mémoires. C'est un peu comme une plaque mémorielle. C'est un peu comme un monument qui est créé. En soi, une plaque, ça ne sert à rien, si ce n'est de se rappeler, de se souvenir, de commémorer, de faire attention aux autres. Ben, ce geste, c'est un peu ça. La République fait attention aux autres.
Cette décision intervient aussi au moment des 25 ans de la loi Taubira. Avec le recul, qu'a changé cette loi dans la manière dont la France regarde aujourd'hui l'esclavage et la traite ?
Je pense qu'il y a trois niveaux importants. D'abord, les Français ont pris conscience de cette histoire, parce que la loi Taubira fait débat, que depuis elle a pu agir, que depuis la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a été créée, qu'elle est active sur les territoires, notamment dans les écoles, qu'elle fait des expositions, qu'elle propose des messages, qu'elle soutient des thèses. Quelque part, il y a une action publique autour du passé de la mémoire de l'esclavage. dont je vous fais remarquer qu'il n'y a pas d'équivalent sur l'histoire coloniale. Deuxièmement, elle a replacé dans le récit français cette histoire coloniale qui était souvent perçue à la marge, comme si c'était là-bas. Non, ça fait aussi partie de notre récit du commun. Et là, je dis que ça a changé dans la perception qu'on peut en avoir. Et puis troisièmement, la France a fait un acte symbolique cette fois-ci à l'échelle internationale, puisque ça a été la première puissance occidentale ex-esclavagiste qui a décidé dans un texte de loi, et la première au monde, à considérer l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Ces trois dimensions-là, en 25 ans, ont en profondeur modifié la prise de conscience en France sur ces enjeux. Et je dois dire que la France là-dessus a été moteur, et on peut même regretter qu'elle n'ait pas su, quelque part, prolonger cet élan. On l'a vu récemment avec un vote à l'ONU où la France s'est abstenue, ou, ce que beaucoup demandent aussi à la France, d'avoir un travail similaire sur la période de la colonisation, qui suit d'une certaine manière la période qu'on appelle esclavagiste, du colonialisme esclavagiste, qui a été sous l'ancien régime dominant.
Les débats ont aussi fait remonter une question plus large, celle des héritages. Certains élus ont évoqué les inégalités persistantes dans les outre-mer, les discriminations ou encore certaines mémoires blessées. Comment relier cet héritage historique aux réalités contemporaines sans tomber, bien évidemment, dans l'anachronisme ?
Ben vous venez de le dire. C'est très compliqué. D'abord, ce n'est pas forcément aux historiens, qui ne sont pas forcément les meilleurs sur ce point-là, pour mesurer la partie d'héritage. Et en gros, dans une situation d'économie, par exemple, on voit bien le statut aujourd'hui ou la situation économique des régions ultramarines, quel est l'impact immédiat de la période esclavagiste, des politiques publiques qui ont suivi ? La question mérite d'être posée car il y a un impact. Il y a au moins un impact sur les discriminations, vous l'avez dit aussi dans votre phrase, sur les mémoires, sur le travail de mémoire. Mais si on est très technique sur la question, par exemple, du développement. Si on pose la question sur les inégalités à l'intérieur de ces territoires, par exemple, de certaines populations qui auraient des avantages par rapport à d'autres, qui sont les héritages de la colonisation. Là, il y a un travail extrêmement pointu à faire. Dans certains cas, on est capable de le mesurer, même nous, là, les historiens. Par exemple, sur la dette d'Haïti, que Haïti a été obligé de payer à la France pour payer sa propre liberté. On est capable de le mesurer, y compris sur l'impact que ce remboursement de cette dette a coûté à Haïti. Dans d'autres cas, le calcul est plus complexe et peut faire l'objet de débats. Par contre, il mérite d'être mené comme schéma. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a dans ces situations des héritages et qu'on l'a fait avec d'autres pays. Vous savez, après des conflits, très souvent, on mesure la dette qu'ont amené d'une certaine manière des guerres et que le vainqueur va imposer à celui qui a été donné. Donc c'est des mécanismes qui existent, inconscients, politiques, dans les relations diplomatiques monde. En gros, on mesure l'impact et la personne ou l'État ou le système ou la société ou l'armée qui a contribué à une dette, va la rembourser par la suite. Donc on pourrait très bien imaginer qu'une réflexion soit menée. Maintenant, est-ce que cette dette doit être remboursée de manière sonnante et trébuchante à des individus, ou est-ce qu'elle doit, bien au contraire, permettre par exemple des programmes de développement, des programmes culturels, des programmes éducatifs ? Là aussi, il y a un débat sur comment réparer. Est-ce que l'argent est la seule manière ? Et puis qui doit être indemnisé ? Dans les sociétés qui se sont métissées. Je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat sur de qui on parle. Tous ces enjeux-là méritent en tout cas d'être soulevés et ce serait un des grands enjeux du XXIe siècle que de poser ces questions.
Finalement, derrière cette question, il y a celle de la transmission. Pascal Blanchard, le texte évoque aussi la place de l'histoire de l'esclavage dans les programmes scolaires. Est-ce que cette histoire est suffisamment enseignée aujourd'hui en France ?
Ah, beaucoup plus que quand j'ai passé mon baccalauréat. Alors maintenant, je suis un vieil historien, hein, vous allez rigoler, mais moi, quand j'ai passé mon bac, on ne m'a jamais parlé d'histoire coloniale et on ne m'a jamais parlé d'histoire de l'esclavage. Ce n'est plus le cas. Les enfants de France, aujourd'hui, entendent parler de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Est-ce qu'il en faut plus ou moins ? C'est un vaste débat, mais je pense qu'il en faut du mieux. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir s'il faut plus de place dans les manuels scolaires et dans les programmes sur la question de l'esclavage, mais est-ce qu'on peut l'enseigner encore plus en profondeur sur les interactions avec le récit national français ? Ce n'est pas quelque chose qui était à part, c'est quelque chose qui a fait partie de l'histoire de France. Par exemple, la richesse qui arrivait de Saint-Domingue, aujourd'hui à Haïti, des plantations, ça a servi à quoi cet argent ? Quand on réfléchit, ça enrichit des personnes, mais ça a permis aussi à l'État de mener des guerres en Europe. Donc ça veut dire que lire notre propre histoire nationale, à l'aune des récits sur la période, ou sur l'histoire, ou sur les territoires coloniaux, permet de mieux comprendre comment notre pays s'est constitué, a évolué, et donc en fin de compte, le récit national. C'est tout ça qu'on est en train d'apprendre, rendre quelque part normal l'enseignement de ces récits, parce qu'ils sont partie intégrante de la compréhension de l'histoire de notre pays. Et on le sait, quand les enfants de France connaissent l'histoire de France, généralement, c'est des bons citoyens.
Pour finir, Pascal Blanchard, si cette abrogation ne devait pas être seulement une page tournée, mais l'ouverture d'un nouveau travail, qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Déjà, il faut regarder l'intégralité des lois qui restent dans le domaine juridique français, des législations françaises, des lois votées, parce que chaque réflexion sur des abrogations nous fait réfléchir justement sur ces systèmes et sur ces lois. Deuxièmement, je pense qu'on ouvre à travers ça une manière de repenser le passé. Et comme on hésite encore en France à oser ouvrir la porte des réparations, comme on hésite en France, par exemple, à ouvrir un grand musée d'histoire coloniale qui serait en hexagone et qui permettrait aux enfants de France, avec les enseignants, de pouvoir partager, de dialoguer et de découvrir cette histoire. Comme on hésite encore à aller un peu plus loin, comme font des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, avec des réflexions en profondeur sur la manière dont on doit digérer le passé, eh ben on peut espérer que cette abrogation va donner un coup d'accélérateur dans la société et que nos élites politiques trouveront du courage de regarder ces passés pour mieux les transmettre dans le présent.
Merci Pascal Blanchard d'avoir été avec nous.
Merci à vous, très bonne journée.
Je précise que vous êtes historien et spécialiste de la question coloniale, postcoloniale et de l'immigration. Cet épisode est disponible en podcast sur le site de Radio Orient et Spotify. Merci de votre fidélité.
C'était Grand Angle.